Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi. Les grandes gueules du sport.
Victoire de l'équipe de France. La deuxième dans ce tournoi. Victoire 30 à 24.
Jean-Christophe Drouet.
11h07, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi. C'est toujours en direct évidemment, mais vous pouvez nous écouter en podcast. Une très bonne émission pour l'instant avec les GG autour de moi. Simon Dutin, Fred Weiss, Marc Madiot, Philippe Saint-André. On a évoqué Irlande-France. Est-ce que c'est un tournant dans l'histoire de cette équipe? On a parlé aussi de Brian O'Driscoll qui compare Antoine Dupont à Lionel Messi. Également Paulo da Fonseca et cette suspension énorme, inédite avec... 7 mois privés de banc de touche, 9 mois de banc de touche, 7 mois de vestiaire. Vous pouvez aller réécouter tout ça tranquillement en podcast cet après-midi. Sachez que c'est l'événement sur RMC Irlande-France, et donc à 15h15, prise d'antenne à partir de 14h. Et donc pour cette finale du tournoi Destination, on parlera de cette sortie inattendue de Fabien Galthié sur l'arbitrage dans quelques instants. 11h30, le dossier des GG autour de la FIFA qui réfléchit à intégrer encore plus d'équipes, encore plus de nations à la Coupe du Monde. Vous me direz ce que vous en pensez. Et puis 11h45, comme d'habitude, un petit moment de détente avec le débat caché, enfin de détente. Vous ne savez rien, vous êtes dans le noir. Pourtant, il faudra débattre. D'après vous, la sensation, c'est quoi le débat caché, Simon Dutin?
Je réfléchissais là pendant la pause. Peut-être cette histoire de classico, là, PSG-OM, qui va être diffusée, j'ai vu dans des cinémas.
Oui, c'est une expérience
a déjà été faite avec de la NBA, je crois. Je parle sous le compte.
Le Super Bowl aussi.
Le Super Bowl récemment.
Au Grand Rex.
Voilà, et tu vas nous demander si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose pour le futur des droits de la Ligue 1.
Ok, voilà. Les cinémas, tout ça, j'aime bien. C'est un bon débat caché, ça. Fred Weiss. Attends. Pas du basket.
Non, pas du basket, du foot. Je voulais parler de Colomani qui a fait des déclarations en disant qu'il y avait une énorme pression pour un Français, surtout quand il a coûté 90 millions de jouer au PSG. Donc je pense que tu aurais pu nous poser la question de savoir est-ce qu'il y a une plus grosse pression quand on est Français de jouer au PSG ou pas, ou tu aurais trouvé un truc par rapport à ça.
Ok, très bien, voilà, une bonne proposition. C'est étonnant que tu n'aies pas proposé de basket, mais pourquoi pas. Philippe, c'est quoi le débat caché?
Toi, JC, tu es capable de nous parler de golf, alors je ne sais pas pourquoi. Je pense que tu es capable de nous parler de golf.
Alors, je vous parle de golf toutes les semaines, même deux fois par semaine, dans le Practice RMC, c'est l'excellent podcast de référence.
Parce que Pavan est aux fraises actuellement.
Ah oui, il sera dernier.
Tu as bien tendu la perche, parce que dernier depuis le début de l'émission, tu n'as pas, ouais, pas eu l'occasion de parler.
De golf?
Ouais,
mais merci beaucoup.
Tu l'as soudoyé avant de commencer.
Bah, je te donne toujours un petit billet quand
on va utiliser
le Practice RMC. On parle de quoi, Marc?
Pogacar peut-il gagner toutes les courses de la saison?
À commencer par cet après-midi.
Voilà.
Avec Paris-Nice.
Eh non, il est pas à Paris-Nice.
Non, mais l'Estrade Bianche, mais il y a Paris-Nice qui commence.
Ouais, mais
c'est quoi le plus important pour toi? T'as des équipes partout là?
Partout.
Partout.
Partout, partout.
Vous allez gagner?
Alors.
Le alors.
Nous allons être les premiers derrière l'intouchable.
Ok. Bon, l'Estrade Bianche, c'est évidemment à suivre sur RMC avec Tadej Pogacar, et c'était un très bon débat, merci, proposé par Marc Madiot. On verra tout ça, ce sera 11h45. Un point sur notre direct en cours, c'est de la descente homme, ça se passe en Norvège avec notre commentatrice, vous le savez, Léna Marjac. Salut Léna.
Salut JC, salut à tous. Et il n'y aura pas de gros résultats pour Nils Allègre aujourd'hui. Notre Français est 13e provisoire de cette descente à 1,5 seconde du Suisse Franjo Van Almen. Hier, Nils Allègre, pour la première descente de Kvitfjell en Norvège, avait été aller chercher une 8e place. Aujourd'hui, eh bien, dans des conditions un peu différentes, avec une luminosité qui n'était pas très bonne, eh bien, Nils Allègre ne fera pas mieux qu'une 13e place aujourd'hui. Il y a 7 autres Français qui vont s'élancer, notamment le prochain Maxence Musaton dans quelques dossards, avec son dossard 20, et on se dirige tout droit vers un triplé suisse. En tout cas, eux, les Helvètes, n'ont pas de problème pour avoir des résultats tous les week-ends. Franjo Van Almen, le récent champion du monde de descente, est en tête devant Marco Odermatt et devant Stefan Rogentin.
Merci beaucoup Léna Marjac, à tout à l'heure. Victor Hugo a dit un jour, la première égalité, c'est l'équité.
RMC.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
On entend de plus en plus souvent qu'on apprend de ses erreurs.
Je pense qu'on a perdu un peu de notre potentiel dans ce rapport de force qu'on a dès la première décision. Il y a un rapport de force qui se crée et qui se tend en fait.
L'erreur a longtemps en France été vue comme une faute. elle est de plus en plus perçue comme apprenante.
Alors que ce qu'on a bien appris pendant 4 ans et demi, c'est que l'accompagne l'arbitre dans ses décisions.
Il faut aussi accepter de faire des erreurs, ce qui implique du courage.
Il est nous tard, je pense, de revoir des images qui vont nous donner encore plus de frustration. Je pense qu'il y a des choses claires et évidentes qui sont faciles à siffler, qui ne l'ont pas été.
Et l'erreur n'est apprenante que si l'on a conscience de l'avoir commise.
C'est quand même des choses faciles à siffler, mais encore une fois, je n'ai pas envie de faire les gris qui râlent sur l'arbitrage parce qu'il a perdu le match, mais je ne suis pas sûr que l'arbitrage ait été au niveau de l'enjeu aujourd'hui.
Il faut donc développer la capacité de relecture des situations.
Chaille chaudée craint l'eau froide, paraît-il. Fabien Galthié a donc profité de la conférence de presse d'avant-match pour lancer le match face à l'Irlande aujourd'hui, donc à 15h15. Le sélectionneur des Bleus veut de l'équité dans l'arbitrage. Alors pourquoi cette sortie ? Fabien Galthié n'a toujours pas digéré l'essai litigieux concédé il y a 2 ans à la Viva Stadium lorsque James Lowe avait, semble-t-il, mis le pied en touche avant d'aplatir. La musique qui fout les jetons est cette question. Fabien Galthié a-t-il raison de mettre la pression sur l'arbitrage ? Oui ou non, mais GG. Simon Dutin ?
Non.
Philippe Saint-André ?
Sur ce match, oui.
Marc Madio ?
Non.
Fred Weiss ?
Oui.
Non !
Fred, on est d'accord !
Non ! C'est incroyable ! Vous allez quand même trouver des points de divergence, rassurez-moi.
On va essayer quand même.
Ah, oui. Merci. Avant de débattre, on va retrouver la voix du rugby sur RMC, notre commentateur cet après-midi à Dublin, Wilfried Templier. Salut Wilfried.
Salut tout le monde.
Salut, tu étais présent en conférence de presse et tu as pu remarquer qu'il avait donc un message à faire passer.
Oui, et il avait d'ailleurs tout prévu, parce qu'on va vous expliquer, en début de conférence de presse, il y a eu des questions sur le retour d'Entamac, celui de Penaud, ou sur le banc avec 7 avant, et d'un coup, alors que Fabien Galthié est interrogé à la base sur la tactique qu'il a adoptée face à l'Irlande, il parle de son attaque, il parle de sa défense, et il se lance. On a compris qu'il avait prévu, parce qu'au début, il est un peu hésitant, vous allez voir, au point de regarder son cahier devant lui, et ensuite, il déroule tous ses désirs personnels concernant l'arbitrage. Écoutez l'enchaînement, il met 10 secondes à se lancer.
Nous, ce qu'on attend, on a besoin d'être accompagné par un arbitrage déterminant. Qu'est-ce qui est toléré, qu'est-ce qui n'est pas toléré? On a besoin d'avoir une grande équité sur les points clés pour lesquels nous avons préparé ce match-là, c'est-à-dire les phases de conquête, la mêlée, être jugé de manière équitable sur la mêlée, la lecture des ballons portés, notamment de la défense des ballons portés et de l'attaque des ballons portés, et aussi une grande équité parce qu'on veut mettre de la vitesse dans le jeu au sol, une grande équité dans la lecture du jeu au sol. On veut aussi avoir notre mot à dire sur le tempo du match, sur l'équilibre du match dans les phases clés. Pour cela, nous, on a besoin de jouer avec le corps arbitral. Je me souviens, par exemple, il y a 2 ans, de la lecture de l'arbitrage vidéo de l'essai de James Lowe, par exemple, qui avait fait débat. Voilà, nous, on a besoin de se sentir à l'aise dans ce contexte fantastique qu'est la Viva Stadium.
Effectivement, tu l'as dit, JC, il y a 2 ans, sur l'essai de James Lowe. Alors, c'était pas la lecture de l'arbitrage, c'était un ralenti de la télé irlandaise. On le voit mettre un pied en touche, n'était arrivé qu'à la mi-temps en fait, bien après l'action et l'essai accordé. Donc cette première prise de parole sur le sujet en a aussi appelé une autre quand on lui a soumis la différence de traitement entre les suspensions cette semaine de Romain Ntamack et de Gary Ringrose, l'Irlandais qui va rejouer avant la fin du tournoi. Autre sujet, même s'il n'y a aucun rapport entre la commission de discipline du tournoi Destination et l'arbitrage qui est lui affilié à World Rugby, il s'est à nouveau engouffré.
On a besoin d'équité, je reprends le mot, sur le terrain, en dehors du terrain, avec l'arbitrage vidéo, on a besoin d'équité, partout. C'est clé dans les matchs de ce niveau-là. Après, je ne commenterai pas les décisions qui seront prises, ne comptez pas sur moi après le match pour remettre en question des décisions, je préfère en parler avant, je préfère travailler avant, et ce que l'on fait très bien avec le corps arbitral depuis toujours, et je le répète, à ce niveau-là, dans ces matchs-là, parfois les décisions donnent souvent la clé du match, c'est pour ça qu'il faut une grande performance dans ces décisions-là.
Jamais depuis qu'il est sélectionneur, Fabien Galthié n'avait passé ce genre de message si appuyé avant un match. Sachez que, comme d'habitude, il y a eu une rencontre avec les arbitres, entre les arbitres et le staff hier en veille de match. L'Australien Angus Gardner est prévenu.
Ah oui, il est prévenu, hein, parce qu'il avait préparé ses listes de courses et c'était parfaitement résumé par Wilfried Templier. Tu restes avec nous pour ce débat. Est-ce qu'il a raison de mettre la pression comme ça sur l'arbitrage avant de se rendre en Irlande? C'est notre débat, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. C'est en 2 contre 2, une nouvelle fois dans le studio RMC. Et Marc veut encore commencer. Je vois qu'il bondit sur son siège.
J'hallucine. Je trépigne. Hein, je ne comprends pas. Comment un entraîneur, un sélectionneur peut s'exprimer de la façon dont il s'est exprimé sur le sujet. On ne peut, il a, si on écoute bien tout ce qu'il a dit, il a en permanence dit, il ne doit pas dire on a besoin. Oui, c'est ça, je reprends mon fil. Il répète sans cesse, on a besoin. Mais il n'a pas à dire ça! Oui. Quand on est entraîneur ou sélectionneur, on peut pas dire ça devant des médias. C'est comme si Enrique dit dans le match, le prochain match, oh ben j'ai besoin d'un penalty. J'ai besoin de l'arbitre pour marquer, pour rétablir la situation qui a été dans laquelle on a été volé.
Oui, ou alors expliquer une défaite.
Par franchement, il peut pas dire on a besoin. Il peut dire j'espère un arbitrage cadré, clean et tout. Là, ouais, pas de problème. Ça, il peut le dire.
On a mais besoin
il peut
d'un
pas
arbitre.
Dire aux arbitres, j'ai besoin.
On a quand on le comprend évidemment. Et là, on va demander aussi à l'expert rugby Philippe. Hein, mais quand il parle, on a l'impression qu'il dit bon, on a besoin que les arbitres nous aident par rapport à ce qu'on a travaillé cette semaine. Mais
c'est hallucinant.
Non.
Alors. Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le circuit international, il y a énormément de lobbying dans la semaine qui prépare un match. C'est-à-dire qu'on envoie des vidéos par rapport à l'équipe adverse.
Et c'est comment vrai, ça?
Oui. Mais c'est fait depuis 10-15 ans et les meilleurs c'était les All Blacks.
Donc vous envoyez des trucs aux arbitres.
Oui, on envoie des vidéos. On envoie des vidéos. Mais l'autre équipe fait exactement la même chose. Et donc c'est vrai que les Irlandais, bon après beaucoup d'institutions sont aussi à Dublin, les Irlandais en règle générale sont très bien arbitrés. Alors il l'a expliqué, ils sont limite où? Dans les zones de ruck. Dans les zones de ruck, souvent ils laissent leur corps, ils essayent que le ballon il n'y a pas de libération rapide. Et quand l'arbitre dit « release », là, on les voit, les Irlandais, ils lèvent les deux bras et ils regardent l'arbitre. Donc, ils sont très intelligents là-dessus. Sur les ballons portés, souvent, ils écroulent à la source avec un joueur qui impacte le lifter. C'est là où on parlait tout à l'heure de l'importance de ce match. Fabien Galthié ne l'a jamais fait en 6 ans. Rassi Erasmus l'a fait la semaine du quart de finale de la Coupe du Monde en disant le mardi, on sait au Stade de France que les décisions 50-50, l'arbitre va les prendre contre nous. Il avait déjà mis la pression durant la semaine. Et donc là, Fabien Galthié, il attend juste une équité sur les zones de ruck, sur les ballons portés. Et donc la vidéo a été envoyée. Hier, il a eu la réunion avec l'arbitre où souvent tu y vas avec ton capitaine, c'est-à-dire avec le joueur qui va être en communication durant tout le match avec l'arbitre. Alors oui, pour d'autres sports, c'est assez incroyable, mais tu fais ça au niveau international, tu fais ça en Coupe d'Europe. Moi, en Coupe d'Europe, souvent, c'était pas mon capitaine, c'était un anglo-saxon, celui qui parlait le mieux anglais, qui faisait la réunion, le zoom durant la semaine avec l'arbitre et qui était l'interlocuteur de l'arbitre pendant 80 minutes. Alors, on a pris des leçons. Avant, les All Blacks, les Sud-Africains étaient bien meilleurs. On s'améliore de mieux en mieux. Et là, c'est la première fois que Fabien Galthié met la pression. Pourquoi? Eh bien, parce que ça revient sur le premier sujet. C'est un match important. C'est une finale. Et il veut que là-dessus, l'arbitre soit exemplaire.
Philippe, tu l'as dit, il y a dans le rugby plus qu'ailleurs quand même beaucoup de rapports avec les arbitres avant les rencontres. Justement, il n'y a pas besoin de la presse, de la conférence de presse pour faire passer ce message. Tu te mets à la place de l'arbitre, tu dis bon, ça va, on s'est vu, on en a parlé. Qu'est-ce pour,
oui, mais là il veut mettre une pression médiatique à Angus Gardner. Il veut lui mettre une pression médiatique.
D'accord, mais je parle sous ton contrôle. Ce que tu décris des Irlandais à la limite de la règle, c'est ce qu'on a reproché à Richie Mako pendant 15 ans avec les All Blacks, ouais. Et on disait Mako il a pas le droit de jouer comme ça. Moi j'ai vu la finale qu'on perd d'un point avec Richard Nouvel sauté sur son canapé, il dit mais il a pas le droit bordel, il gueulait comme ça pendant le match, mais ça n'a rien changé. L'arbitre, on leur mettait la pression, on disait attendez monsieur, pourquoi Mako il a le droit alors que nous on se fait sanctionner? Et ouais, regarde, attends, les Irlandais ils se font avoir en Coupe du Monde quand dans les dernières secondes ils ont une occasion, et je sais plus c'est Whitelock ou Retallick qui vient gratter le ballon et qui relâche pas le joueur, et ils se sont fait avoir comme ça. Et pourtant, on imagine que toute la semaine, ils avaient dit, regardez les Néo-Zélandais, ils continuent de jouer avec la limite. Donc, je comprends pas ce que cherche Galthié là-dedans.
Je vais vous expliquer.
Ça peut agacer l'arbitre, hein.
Je vais vous raconter une histoire qui est incroyable. Quand j'étais sélectionneur, pendant le tournoi des Six Nations, la Nouvelle-Zélande aussi débriefait chaque match et ils envoyaient des vidéos à l'arbitrage. Ils avaient mis en question un pilier à nous, parce qu'il était très petit, etc. Et sur ses axes de poussée. On joue l'Irlande, je le mets titulaire. Il prend une pénalité deux pénalités. Et l'arbitre, à la mi-temps, il me dit, Philippe, si tu le sors pas, c'est carton jaune et après carton rouge. Et le lobbying n'est pas venu, en plus, des Irlandais. Le lobbying était venu des All Blacks et de sa tenue en mêlée. Donc, il faut comprendre que dans le rugby, quand j'entends les mecs qui disent maintenant, ouais, il faut leur casser la bouche, etc. Ça, c'était le rugby d'il y a 20 ans, 25 ans. Maintenant, tu as des règles, et il faut respecter la règle. Attends, et le joueur qui triche très longtemps, il est puni et il ne peut plus jouer au niveau international.
Tu as des règles ou c'est... qu'est-ce qu'il y a à mettre en cause au final? Parce que de ce que tu nous dis, et alors on se doute que ça se passe comme ça, mais c'est la limite de la règle, ça tu as raison, mais c'est quoi? C'est l'arbitre qui est influençable en fait. L'arbitre, on lui montre.
C'est pas que c'est influençable, c'est qu'on on met en exergue ce que font de mal les autres pour qu'ils soient plus attentifs à ça. Mais tu sais, je vous écoute tous et le nom me surprend énormément. Le fait que ce soit pas bien que Galtier s'exprime, ça me surprend énormément. Je ne connais pas le rugby. J'ai découvert le rugby quasiment en 2023 et je me suis rendu compte qu'on avait dit qu'on s'était fait avoir par l'arbitre, qu'on critiquait l'arbitre, nos défaites étaient dues à l'arbitre.
On n'était pas assez fort dans les instances.
On n'était pas à World Rugby, exactement. Voilà. Et donc maintenant, il y a quelqu'un qui s'exprime, qui dit... Alors franchement, ces mots sont plutôt très doux. Il demande de l'équité. Ça va, c'est pas non plus une insulte absolue. Il met juste en exergue ce que font de mal les Irlandais pour que ça nous bénéficie. Mais il est juste dans son rôle.
Et Galtier, ça veut dire, c'est juste dans son rôle. Qui se font avouer, qui se font
tuer. Sauf que les mots ont un sens et il n'y a aucune agression dans ce qu'il dit. Il met juste en exergue des choses que les Irlandais font. Et il demande juste que l'arbitrage soit réglé par rapport à
l'histoire. Parce qu'encore une fois,
on n'a personne dans les instances et qu'encore une fois, on s'est fait avoir, ou en tout cas, c'est ce qui a été dit, à la Coupe du Monde. C'est le job de la section, et dans tous les sports, Philippe. Dans tous les sports, pas que dans le tien.
Rassie Rasmus, l'entraîneur sud-africain, quand on a gagné l'Afrique du Sud à Marseille, il est allé aussi, après le match, envoyer des Twitter en montrant des actions où l'arbitre aurait dû...
Oui, il a fait campagne sur les réseaux sociaux.
Évidemment, ça s'appelle du lobbying, et c'est normal.
Wilfried, t'es d'accord avec moi ou pas?
Oui, mais Rassie Rasmus, il gagne l'avant-match, il gagne le match, il gagne l'après-match, dans la communication, en fait. Sauf que, sur Twitter, après, Philippe, c'est plus dangereux, ça a été
puni.
Fabien Galtier l'a fait beaucoup plus, de manière beaucoup plus diplomatique, et on se plaint, tu l'as dit, vous l'avez dit, on ne pèse pas assez dans les instances. Bon, Marc, on peut ne pas être d'accord, mais ça ne coûte rien de dire attention, messieurs. Mais c'est juste un rappel.
Surtout
mais
les Irlandais
jouent avec la règle.
J'hallucine.
Mais le lobbying, ça marche, non, évidemment. Et encore une fois, expliquer, ils font ça mal, et il y a un œil attentif dessus.
Les Français ont envoyé, et les Irlandais ont envoyé 10 clips différents de sur deux mêmes joueurs. Les Irlandais ont envoyé 10 clips d'Antonio à l'arbitre. Tu parlais des clips qu'ils envoyaient, Philippe. Ouais. Et les Irlandais ont envoyé 10 clips d'Antonio sur des tenues un peu bizarres en mêlée. Et les Français ont fait pareil avec Porter. C'est ce qu'on m'a rapporté, moi. Donc, voilà. Donc, c'est une guerre un peu.
Il y a une guerre dans la semaine là-dessus, bien sûr.
Mais attends.
Mais ça fait partie du job.
C'est fou. Mais alors on va faire la même chose dans le foot.
On m'a dit que l'arbitre, ce qu'a dit Fabien Galtier, il l'entendait pas, il était dans son truc. Angus Gardner, c'est un Australien. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Mais dans les instances, on m'a dit, vous inquiétez pas pour lui.
Ah bah écoutez, Antoine Dupont qui était hier en conférence de presse, et il en a remis aussi une couche, Antoine Dupont.
Déjà, ça sera à nous d'être maître de notre jeu, de pas faire de faute, de pas offrir d'occasion aux Irlandais de venir dans notre camp par des pénalités. Après, on sait que quand ils s'approchent des lignes, ils sont durs à arrêter. Ils arrivent quasiment continuellement à ralentir les recs adverses avec des joueurs qui sont souvent à la limite et qui sont à la limite de se faire pénaliser. Ils ne le sont pas. Et s'ils sont à la faute, on espère un arbitrage juste, mais on n'est pas inquiet là-dessus.
Voilà, on espère un arbitrage.
Et si le coach le dit, moi j'ai envie de dire pour l'écouter.
Fabien nous appelle au 32-16, il veut absolument participer à nos débats. Bonjour Fabien.
Bonjour.
Salut Fabien.
Bonjour. Bon, tu as la parole, on t'écoute.
Ouais, alors, moi, je vous appelle, je suis originaire de Lons-le-Saunier dans le Jura, Philippe.
C'est oui, je connais.
Hein?
Une terre de rugby, Lons.
Oui, puisqu'il y a ton frère qui est passé par là.
Oui, il a entraîné, exactement.
Ouais. J'ai été talonneur et arbitre et entraîneur d'une équipe féminine. Galtier, c'est le Domenech du ballon ovale.
Vas-y, pour
qu'il arrête de nous prendre pour des cons. Il est déjà en train de chercher pour les joueurs un moyen de justifier un éventuel échec en Irlande. Il pourrait pas simplement leur demander de jouer au rugby. on fout la paix aux arbitres, on a la tête à ce qu'on fait, on va bosser, et après on réfléchira. Faut quand même pas oublier que, oui, l'effet de jeu, les machins, d'accord. Il y a un arbitre, sur un quart de finale de Coupe du Monde, on fait jouer un gars qui avait plumé les pieds sur un terrain depuis 3 mois, on fait jouer le bonhomme, il prend de mauvaises décisions, l'arbitre nous fait un cadeau, un des meilleurs deuxième ligne du monde, qui se retrouve à aller s'asseoir pendant 10 minutes, on score pas. Donc on a les Sud-Africains en infériorité numérique, on score pas, mais c'est la faute de l'arbitre. La saison dernière, on appelle le Grand Ville MC, 13e de top 14 dans une équipe qui est complètement à la rue à Montpellier. Il se retrouve sur ce match contre l'Irlande, il fait 2 énormes bêtises, il prend un rouge, on joue à 14 contre les Irlandais. Mais ce sera la faute de l'arbitre. Donc ça va 2 minutes ces affaires-là. Je vous dis, c'est Galtier gagné, il a du mal. On est les champions du monde du match amical. En revanche, alors pour ce qui est de prendre les gens pour des imbéciles, il est très très fort. Et le pire, c'est que ça marche.
Bon, voilà, la vie de Fabien, mais. T'as coupé le sifflet à tout le monde, Fabien, c'est très intéressant.
Bon, Wilfried, bah là, alors.
Wilfried, tu veux peut-être réagir?
Non, bah, je vais raccrocher, je.
Ok. Bon, Wilfried.
Non, mais, enfin, franchement, on peut aimer, pas aimer, je comprends Marc, ce qu'il dit, tout, mais.
Non, mais c'est pas une histoire d'aimer ou pas aimer, c'est, moi,
non, c'est
j'hallucine
de l'arbitre, je suis chevé sur le reste. C'est tout. Sur le respect un peu de l'arbitre, mais dans le rugby ça choque personne, je pense.
C'est la première fois que Fabien le fait en 6 ans de mandat.
Bon, on verra si ça porte ses fruits. C'est ça. À 15h15, prise d'antenne avec Wilfried Templier, avec Denis Charvet, avec Christophe Cessieux, Pierre Thévenet, en direct de la Viva Stadium. Merci beaucoup Wilfried, t'es déjà dans ton match, t'es bien?
Je m'abule.
Parfait. Voilà. Bon, bah, reste dans ta bulle. Aucune référence avec les gaufres de Fabien Galtier, la bulle à Rome, tout ça.
Rien à voir. Non, mais c'est un très grand tournant. Vous en avez parlé tout à l'heure. Et j'étais d'accord avec vous pour le coup. Je vous ai entendu. C'est un très grand tournant. Malgré ce que Fabien Galtier dit, c'est, voilà. On s'amuse la semaine prochaine contre l'Écosse. On peut, voilà, la roue tourne un peu et on se tourne vers l'Australie. Va revenir un peu, quoi.
Voilà. C'est 14h, en tout cas. Prise d'antenne, coup d'envoi, 15h15. Isabelle est avec nous. Bonjour, Isabelle.
Bonjour.
Isabelle, est-ce que tu sais pourquoi nous sommes en communication ce matin dans les grandes gueules du sport?
Oui, je crois savoir pourquoi.
Est-ce que tu as joué un jeu ce matin?
J'ai joué un jeu ce matin.
Ok, il fallait envoyer rugby au 7-32-16 pour remporter 2 places pour France-Écosse, dernier match du tournoi Destination. Eh bien, c'est gagné, Isabelle.
Ah, génial. Trop contente. Un grand merci. C'est super.
Bon, on est très heureux pour toi, Isabelle. Tu y vas avec qui? Tu sais déjà?
Ah bah oui, je vais avec mon compagnon. Lui, il va être fou de joie.
Ah,
fou de joie.
D'accord.
Oui.
Bon, c'est dommage, j'étais disponible samedi soir prochain. Je comprends. Il y a des priorités. Merci Isabelle et bon match. Et on espère que ce sera la grande finale et peut-être la victoire de l'équipe de France dans ce tournoi Destination. Merci Isabelle.
Sinon, ce sera une belle 3e place.
Voilà, un bon match pour la 3e place. À bientôt Isabelle et merci de ta fidélité. À tout de suite sur RMC, le dossier des GG autour de la FIFA qui veut encore peut-être changer le mode de la Coupe du Monde. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h34, de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Marc Madiot, Philippe Saint-André, Fred Weiss, Simon Dutin. Dans 10 minutes, restez bien avec nous. Le débat caché, je vous ai concocté un petit débat, il va falloir débattre et pour l'instant vous ne savez rien, mais GG évidemment. Mais tout de suite, on va parler de la FIFA.
RMC, le dossier des GG.
Et si on jouait à 64, pour paraphraser une célèbre une du journal L'Équipe, selon le New York Times, cette semaine, la FIFA envisage de qualifier 64 pays pour la Coupe du Monde 2030, l'édition du centenaire disputée dans 6 pays, je vous le rappelle. Pour rappel, en 2026, le mondial passe déjà de 32 à 48 nations. Et ce n'est pas la seule évolution envisagée par Gianni Infantino, le patron de la FIFA. On retrouve notre journaliste Nicolas Pelletier. Salut Nico.
Salut les GG, salut à tous.
La FIFA veut toujours plus.
Oui, la FIFA veut du changement. Tout d'abord avec la Coupe du Monde 2030, l'instance va mettre en place un show à la mi-temps de la finale du Mondial à New York. Une idée qui doit notamment répondre à la demande du public américain, une copie du show réalisé pour le Super Bowl. Mais ce que la FIFA ne dit pas, ce sont les modalités de ce show. On se rapproche d'un allongement de la durée de la mi-temps qui pourrait passer de 15 à 30 minutes pour cette finale. La FIFA prend donc exemple sur la NFL pour changer les règles. Et puis, mercredi soir, surprise à la toute fin d'une réunion de la FIFA, un représentant de l'Uruguay prend la parole et émet l'idée d'élargir l'édition de la Coupe du Monde 2030 de 48 à 64 nations. Silence de la salle face à cette proposition. Mais un homme accorde du crédit à cette idée, le patron de la FIFA, Gianni Infantino, qui demande d'analyser cette proposition intéressante à 5 ans de l'échéance. Si cette demande est acceptée, l'organisation sera lourdement impactée, les modes de qualification devraient être modifiés et on passerait alors de 104 à 128 matchs minimum joués à l'été 2030. Cette idée est poussée par des considérations financières et politiques avec un défi logistique pour la FIFA. Ce mondial, on le rappelle, est déjà organisé sur 3 continents et dans 6 pays. C'est donc un projet totalement fou qui pourrait voir le jour.
Merci beaucoup Nicolas Pelletier pour ces précisions et cette semaine assez incroyable à la FIFA. Comment vous réagissez les GG? Quelle est votre première impression quand vous entendez ce qui peut changer, ce qui pourrait évoluer pour la Coupe du Monde 2030, Simon?
Malheureusement, on ne tombe pas de l'échelle. Gianni Infantino, tout le monde l'aimait bien quand son rôle c'était d'ouvrir les boîtes lors des tirages au sort. Et puis voilà, depuis le poignard dans le dos de Michel Platini pour prendre, tu vois, devenir calife à la place du calife après Blatter. Et toutes ces décisions sont catastrophiques. C'est celui qui a fait passer, alors d'abord avant 64, on est passé de 32 à 48, et souviens-toi, on avait déjà les mêmes débats. C'est-à-dire tu dévalues en fait un produit que tu veux au contraire officiellement valoriser. Toutes ces décisions de toute façon sont dictées par le plus de pognon, le plus de profit. La Coupe du Monde en Russie, c'est lui. La Coupe du Monde au Qatar, c'est lui. Bientôt la Coupe du Monde en Arabie Saoudite, ce sera lui aussi. Que des régimes progressistes, tu vois, qui mettent en valeur l'humanisme et les valeurs, tu vois, les droits de l'homme. Tu peux rajouter la Coupe du Monde des clubs qui est passée à 32. Maintenant on joue à 32 alors qu'avant on avait une Coupe intercontinentale, tu vois, qui représentait un match que toute la planète entière attendait. Donc voilà, ce mec n'aime pas le football, il aime le pognon et voilà, il se sert du foot pour générer du business. Et il faut,
sauf qu'à tirer sur la corde, il va perdre du pognon parce que ça va désintéresser de plus en plus.
Parce que évidemment ça dévalue le produit qui au contraire il prétend valoriser.
C'est une vraie erreur stratégique. Parce que plus t'as d'équipes, moins il y a de talent. Moins il y a de talent, plus il y a de matchs qui comptent pour du beurre. Et ça va être de moins en moins intéressant.
Alors, tu peux rajouter la Coupe du Monde tous les deux ans, ça le branchait bien aussi.
Voilà. Alors c'est vrai, mais si je peux me permettre une observation, peut-être que ça va vous hérisser le poil, mais à la rigueur, je préfère 64 équipes que 48. Parce que le problème que j'ai avec 48 équipes, c'est qu'en fait, les meilleurs troisièmes sont qualifiés. Et je trouve que ça rend un truc, une bouillie incroyable. Alors 64 équipes, c'est beaucoup trop, mais au moins avec 64 équipes, tu fais plus de groupes et c'est toujours les deux premiers qui se qualifient. Alors ça fait plus de matchs, j'entends.
C'est plus de matchs et des matchs
qui peuvent être superbes. Il y a quand même un petit sujet lié à cette expansion de la Coupe du Monde. C'est que disent les clubs? Est-ce que les clubs vont accepter que leurs joueurs soient de plus en plus sous
Mais quoi, les clubs, les joueurs? Mais on s'en fout, voyons.
Attends, tu crois que le Real de Madrid s'en fout? Tu crois que le Real de Madrid s'en fout si Mbappé passe plus de temps avec l'équipe de France qu'avec l'équipe de Madrid?
Oui, c'est quand même un sujet avec les clubs. Si tu vas au transfert avec les clubs, ça va être compliqué pour toi aussi.
Il y a quand même un sujet avec les clubs, parce que les clubs, c'est qui paye le joueur? Qui paye le joueur?
Il va y avoir un vrai sujet par rapport.
Donc si on enlève du temps et des matchs au club, ça va pas le faire. Après il y a quand même un autre. Alors après c'est
anecdotique. Oui, mais il sait les flatter à l'inverse, parce que justement avec la Coupe du Monde des clubs à 32 équipes, ils vont reverser des profits records à tous les clubs ça fait un petit peu passer la pilule
Quand même aussi un blessé, mais tiens, regarde, carbone dans tout ça, l'empreinte carbone.
L'empreinte quoi?
Le CO2.
Ouais, mais ça va.
Non, mais là, je vous interdis
pas les bonnes conditions.
Je vous interdis de sourire.
Pas. Non, mais moi, ça me fait sourire parce que eux, ça les intéresse pas.
On se place avec le logiciel d'Infantino.
Non, mais chez les fous, quoi, de toute façon.
C'est dans 6 pays, je rappelle. Il y a 3 premiers matchs, des premiers matchs en Amérique latine et ensuite c'est en Espagne, au Portugal et au Maroc.
On voit bien quand on regarde la Coupe du Monde. Il y a des matchs qu'on regarde plus à la Coupe du Monde.
Mais bien sûr.
Quand c'était plus resserré, il y avait de l'intérêt. On s'intéressait aux autres nations, on regardait les matchs des autres nations. Mais s'il faut regarder.
Mais c'est à partir des 8e, vous êtes intéressant.
Infantino n'aime pas le foot. Il s'en fout du foot. Le sport, là.
Il fait le pognon, quoi.
Il n'y a que ça qui l'intéresse.
Et moi, je pense quand même qu'il va y avoir une opposition des clubs. Je suis club, je ne suis pas d'accord.
Non, bien sûr.
Je ne suis pas d'accord.
Là, on ne parle que d'économie. Pour moi, une Coupe du Monde, c'est un événement qui doit se faire déjà que dans un pays.
Oui.
Parce que l'ambiance, les fan zones, tout le monde se retrouve pour un événement qui est planétaire, qui est assez exceptionnel. Là, 3 continents, 6 pays, 48 nations, on va après aller à 64 pays, puis après on va inviter tous les pays qui jouent au foot.
Pour moi, non, mais ça me donne une idée pour le vélo.
C'est plus simple au rugby, il y a que 4 équipes.
Ça me donne une idée pour le vélo.
Il y a aucune logique. Après, voilà, on parle d'écologie, de CO2, ben ouais. N'en parlons pas. Et puis, voilà, l'événement d'une Coupe du Monde et la beauté de la Coupe du Monde, c'est aussi de se retrouver des pays du monde entier dans un même pays, faire la fête, supporter dans des équipes et avoir un vrai événement.
Alors, on met de côté les 64 pays, parce que ça, c'est une réflexion. Autre réflexion, vous l'avez entendu dans le reportage de Nicolas Pelletier, c'est la mi-temps. Voilà, plus 15 minutes, bah mais voyons. 30 minutes pour faire un grand show à l'américaine, comme au Super Bowl pour la finale
et pour
de la Coupe du Monde.
Plus de pubs à la télé, pour en vendre, pour oui, mais... plus de pubs.
Ok, on sait dans quel monde on vit, les D'accord. copains. Donc, est-ce que moi, ça, c'est bien. Une bonne idée?
Moi, ça ne me choque pas du tout. C'est la culture américaine, c'est le show à la mi-temps, c'est ouais, comme le Super Bowl, il y a un show énorme à la mi-temps, donc moi je trouve ça hyper
l'intensité
intéressant.
Du match hyper.
Mais oui, mais moi ouais, ça.
Mais c'est 15 minutes non, de plus, moi, hein, c'est pas comme s'il rajoutait 3 heures non plus. Non, mais
moi, ça fait le double, hein, on passe
oui,
simple
mais
double.
C'est pas non plus fou.
Ah voilà. Ben si.
Non.
Ça, non, mais attends, donc là on reparle de l'entraîneur, mais c'est vrai que toi tu veux l'entraîneur qui soit dans les vestiaires à la mi-temps, tu t'en fous. Mais.
Non, mais qui soit pas là du tout.
Non, mais attends, parce que une demi-heure. Tu es obligé de
refroidir.
Voilà, tu
musculairement.
Que là, un quart d'heure, les mecs reviennent, ils font une ou deux minutes et ils repartent. Là, si tu fais une demi-heure, c'est complètement. C'est un sport différent. C'est un sport différent, il faut.
C'est une préparation différente, c'est pas un sport différent, c'est une mais préparation attends. Différente, mais ils le font pour le Super Bowl sans aucun problème, c'est une question d'habitude. Alors au début, on va être choqué et comme d'habitude, on va s'adapter et il n'y aura aucun souci, Philippe. Vraiment.
Moi, je suis pas d'accord parce que tu changes la règle, l'essence même du foot. Voilà, tu changes. Voilà. Pour aller jouer aux États-Unis, tu changes les règles. Voilà, tu changes les règles.
Ce qu'on est en train de proposer là, c'est comme si moi je transpose souvent dans mon sport. C'est comme si on faisait un Tour de France de 3 semaines. On faisait une semaine en Angleterre, une semaine en Italie et la dernière semaine en France. Et on appellerait ça le Tour de France
avec 45 équipes.
Avec ouais.
Je sais pas si on faisait un départ de France du Tour de France, ce serait pas mal aussi un jour.
Oui, mais
je me rappelle plus.
Oui. Et puis sur le Tour de France, tu fais 3 cols et puis après tu arrêtes la course pendant une heure et quart pour mettre de la publicité, faire un concert et après ça repart. Donc les mecs attends, il y a aucune logique.
Ok les copains, vous avez pu vous exprimer sur ce sujet. Je vois même à la cantine vous n'êtes pas d'accord, Philippe et Fred.
Ok. Mais c'est tant mieux, hein. Comme ça j'en ai plus pour moi.
Léna Marjac pour la descente homme en Norvège. Où en est-on, Léna?
4 Français sont passés. Le meilleur, c'est Maxence Musaton avec une 13e place. Juste derrière lui, on retrouve Nils Allègre à la 14e. Adrien Théo, le doyen de cette équipe de France, est 17e. Et Mathieu Bellet est lui au fond de la classe, 28e pour l'instant de cette descente. Il reste 4 Français, mais on aura aujourd'hui un triplé suisse avec Franjo Van Almen, grand vainqueur de cette avant-dernière descente de la saison.
Merci beaucoup, Léna. À tout à l'heure. On se retrouve dans quelques instants pour le débat caché. C'est la dernière partie de cette émission. Je sais que vous adorez cette séquence. Quel sera le sujet? Mystère. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h47 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Philippe Saint-André, Marc Madiot, Fred Weiss, Simon Dutin à partir de midi. Donc dans 13 minutes maintenant, les paris RMC autour notamment de Rennes-Paris-Saint-Germain mais encore d'Irlande-France. Restez avec nous, on vous donnera toutes les meilleures cotes. Mais tout de suite, vous le savez, c'est l'heure du débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Les GG ne savent rien et pourtant elles vont devoir débattre, réagir, comme vous le savez, comme d'habitude, sur l'instant, sur le moment, sur le présent, à chaud. Sans avoir révisé. Le guet-apens du jour. C'est ça.
He has 20 points games this year. LeBron, open three. 22 seasons, 40 years of age, LeBron James, 50,002 points.
50,000. Un panier pour l'histoire, c'était mardi. Alors là, je suis très déçu pour une fois que je parle de basket dans le débat caché.
Il avait affligé.
C'est fou ça. Alors mardi, LeBron James est devenu le premier joueur à dépasser la barre des 50 000 points en NBA à 40 ans après 22 saisons au plus haut niveau. Il y a lui et les autres. Hein. Seuls Karim Abdul-Jabbar et Karl Malone ont dépassé la barre des 40 000 points. Kobe Bryant et Michael Jordan sont juste en dessous, autour des 39 000 points. Stephen A. Smith, célèbre éditorialiste américain de basket, défenseur acharné de Michael Jordan, commence à revoir un petit peu son jugement. Voici ce qu'il a déclaré. « Je sais, et tout le monde sait, que je ne mets personne devant Jordan dans l'histoire de la NBA. Ma définition du GOAT est la suivante. À son meilleur niveau, que donne un joueur contre les autres légendes à leur meilleur niveau ? Je pense qu'il est temps de mettre fin au débat. Il n'y a personne qui a été aussi bon et pendant aussi longtemps que LeBron. À un niveau soutenu d'excellence, à ce niveau, LeBron est le GOAT de cette catégorie. » De la catégorie, évidemment, de ceux qui durent dans le temps. Alors ma question, au-delà de ces propos, est-ce que LeBron James, à un moment donné, a mis fin au débat du GOAT ? Oui ou non ? Simon Dutin ?
Non.
Fred Weiss ?
Oui.
Philippe Saint-André ?
Je vais être d'accord avec Fred, oui.
Mais je ne suis pas sûr que ce soit pour les mêmes raisons, mais j'attends le oui de Fred quand même. Marc Madio ?
Plutôt non.
Plutôt non. Ok. Fred, bah, tu commences.
Ben, je commence. Mais il est bien sûr qu'il a mis fin à ce débat. C'est Michael Jordan, le GOAT.
Voilà, on était sûr.
Il n'y a pas de débat par rapport à ça. J'en discutais tout à l'heure quand on parlait d'Antoine Dupont. Pour moi, c'est le joueur par excellence. C'est lui. Alors, il a plusieurs choses pour lui, Michael Jordan. Il a permis à la NBA de devenir démocratique, d'arriver dans les foyers, comme on parlait de John Alomou tout à l'heure. Il a fait 6 finales qu'il a gagné, donc il n'a jamais perdu en finale. Il a été 6 fois le meilleur joueur de ces finales. Il a été 5 fois MVP. Il a fait des choses que personne n'a fait. Alors oui, je suis d'accord avec Stephen A. Smith.
LeBron James, il a gagné aussi.
Il a gagné, oui, mais son pourcentage de victoire est bien moins important d'une part. Et ensuite, si on parle de longévité, LeBron, évidemment. Sauf que ce n'est qu'un critère, un des critères pour être le GOAT. Et si c'est sur la longévité, évidemment, on n'a jamais vu un athlète performer aussi bien et de façon aussi récurrente que LeBron James. LeBron
James. Est-ce que ça
ne compense pas.
LeBron James, il a tenu 22 ans.
Oui, c'est magnifique. Oui. Mais les titres, c'est ce qui est le plus important, je vous disais tout à l'heure. Donc pour moi, le débat, il n'a même pas lieu
d'être. Mais non, oui, mais c'est pas vrai, parce qu'il y en a d'autres qui ont gagné plus de titres que Michael Jordan.
Oui, mais en fait, il a dominé son sport, il a été meilleur scoreur, il a été meilleur défenseur, il a été dans les meilleures équipes défensives. En fait, il a tout le panel du joueur de basket, il l'a eu. Il l'a fait, et il a changé la physionomie d'un sport, alors que lui, il a arrêté en plus plusieurs fois, il a une histoire qui est incroyable. Michael Jordan, alors peut-être que je sais ce que tu vas me dire. C'est générationnel, et peut-être. Sauf que pour moi, Michael Jordan est dans mon cœur à jamais. Même si c'est pas mon joueur préféré, pour moi, c'est le GOAT.
Donc, on est encore pas d'accord.
Il y a encore débat.
Non, mais c'est générationnel. C'est marrant ce que tu me dis, mais hier, mon fils arrive et il me parle de LeBron James. Bon, mon fils a 22 ans, il joue au basket. Et il me dit, papa, je pense que c'est le plus bel athlète dans le sport. Il m'a dit ce qu'il fait 22 ans sur l'aspect physique, l'aspect longévité, l'aspect de la longueur, etc. Mais il a 22 ans, donc nous, on a des clichés qui sont autres parce qu'on a connu, mais pour
oui,
la
mais
jeune...
Oui, on les a vus jouer.
Voilà.
Mais on a vu jouer Michael Jordan, c'est un peu différent.
Mais pour la jeune génération, ce qu'il fait, ce qu'il vient de faire, c'est exceptionnel, c'est surréaliste. Donc moi, mon fils m'en parle hier, et c'est marrant, et aujourd'hui, tu as ce sujet. Et il me dit, tu te rends compte, la vitesse, il a été aussi flashé à 35 km/h, il fait 110 kilos, il fait 2m02,
etc. Il n'y a pas de débat sur ça, c'est un athlète fantastique qui a duré dans le temps comme jamais on avait vu. Mais ça n'a aucun rapport avec être le GOAT. En nombre de matchs, en nombre de minutes, en nombre de performances, Michael Jordan est devant.
En fait. Mais c'est Djokovic et Federer, c'est un peu pareil.
Non, parce qu'il y en a un qui a calmé le débat. Encore une fois, il fait 6 finales, il les gagne toutes. Et à chaque fois, c'est lui le MVP de la finale. Donc, c'est un peu plus difficile que ça, vraiment, pour le
basket. On veut vous écouter, Simon Dutin et Marc Madio. Simon.
Ouais, le débat sur le GOAT, de toute façon, c'est dans tous les sports, c'est éminemment subjectif. En effet, les époques, tu vois, au foot, il y a des mecs qui sont fondés à te dire que Maradona, c'était mieux que machin. Et puis d'autres qui vont te dire, mais qu'à l'époque, ça jouait en marchant, que ça défendait pas aussi fort qu'à l'époque de Messi, Ronaldo. Bon, voilà. Moi, je serais plutôt dans la team Fred pour ce qui est de mon avis sur ce débat-là, parce que Jordan, en plus, il a, tu peux rajouter à tout
tous les arguments que tu as cités, la gueule, l'aura, bien le sûr, caractère, le leadership, il y a quand même un...
Les chaussures, après, la gueule et l'aura, les gens LeBron James, là aussi. Hein.
Ouais, les chaussures, mais bon, il y a quand même quelque chose. Et puis, il est quand même cité en référence par tous les mecs qui sont passés derrière lui. Je suis pas sûr que si tu demandes à LeBron James s'il se considère comme le meilleur, il va pas te dire quand même que Jordan reste le meilleur. Et puis, il y a ce côté un petit peu passerelle entre le basket d'avant et le basket tel qu'il est devenu. Il a été quand même le premier à sauter aussi haut, sauter aussi longtemps, à faire, je sais pas, à incarner ce leadership. Tu vois, s'il n'y avait pas eu Jordan, on pourrait dire que Kobe Bryant, qui a été un Jordan 2.0, est le meilleur joueur de l'histoire. Donc, voilà, LeBron James, il incarne en effet cette longévité, mais comme tu le disais, il est allé gagner pour gagner. D'abord, il est allé quand même s'entourer de mecs qui étaient eux aussi des joueurs référents
en termes d'image dans la ligue. Jeune, il a quand même fait une annonce à la télé.
Et voilà, il partait
à Miami.
Il y a ce côté un peu plus marketing dans sa carrière, j'allais dire, que Jordan.
Bah, le débat du GOAT continue, ça tombe bien parce qu'il y a encore émission demain et la semaine prochaine.
Exactement, c'est une belle conclusion et à titre personnel, et c'est pour ça que je pense, et c'est toujours marrant d'en parler ensemble, il n'y a pas quelqu'un qui a raison ou quelqu'un qui a tort, bah, c'est aussi selon évidemment sa préférence, selon son histoire, selon son vécu. Moi je veux dire, tu le sais, mon idole absolue c'est Michael Jordan, mais tout sport confondu. Et donc quand j'entends des jeunes qui me parlent de LeBron James, qui est évidemment un athlète incroyable, je me dis, mais vous y êtes pas du tout, les gars. Mais bon, mais c'est générationnel. C'est générationnel. Voilà. Et c'est pas pour ça que j'ai raison. En tout cas, c'était important de vous entendre sur l'une des informations de la semaine, même pas proposée par Fred Weiss.
Je n'y croyais plus.
Merci beaucoup, les GG. Merci, Simon Dutin, que l'on retrouve demain. Salut, merci, Fred Weiss. Philippe Saint-André, tu seras là demain?
Bien sûr.
Attention, je t'ai mis un petit renfort. Je t'ai mis Cédric Emmons, qui va faire sa première avec nous demain.
C'est pas un petit renfort.
Oui, c'est vrai.
Il est costaud.
Ah oui, il mange bien à la cantine aussi.
C'est un beau bébé.
Ok, très bien. Cédric Emmons sera avec nous. Merci beaucoup. Marc Madio, on débriefera évidemment demain cette rencontre entre l'Irlande et la France. Et puis on se projettera sur ce Liverpool PSG aussi. On vous embrasse. Passez une très belle journée. Surtout, 14h, ne manquez pas. Ce sera magnifique. C'est sur RMC.